Jean-Jacques Monnier, bonjour.
Bonjour.
Il était une fois la préhistoire. Avant les mégalithes, sait-on ce qui s'est passé dans notre région ?
Oui, on sait assez bien maintenant ce qui s'est passé grâce aux travaux des préhistoriens. Et on sait qu'il y a 700 000 ans environ, il y avait des hommes qui vivaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Bretagne. Et que ces hommes donc pouvaient habiter dans la vallée de la Vilaine ou alors en pied de falaise de long des côtes.
Il reste des traces de ces hommes ?
Il reste des traces, oui, des pierres taillées par ces hommes,
des outils un petit peu frustes,
puis aussi des débris alimentaires et aussi des débris de chasse, c'est-à-dire des os ou des ramures d'animaux.
Quelle était la physionomie de la Bretagne à cette époque-là, donc il y a 700 000 ans ?
Disons que c'était une Bretagne nettement plus froide qu'aujourd'hui, avec un gibier tout à fait différent, de grands mammifères, des mammouths, et même à certaines époques, des fauves. Et cette Bretagne, donc, peu à peu, s'est encore refroidie.
Donc un climat qui devient progressivement rude.
Oui, on est passé finalement de la steppe à la forêt de bouleau, la forêt nordique.
Olivier Caillebeau, vous êtes originaire de Rostronin en Centre-Bretagne et vous avez exercé pas mal de professions différentes. Ces dernières années, en tant que réalisateur, vous êtes notamment intéressé à l'histoire de la Bretagne et de son peuple. Une histoire sur laquelle vous avez également beaucoup travaillé, Jean-Jacques Monnier, en tant qu'historien spécialisé notamment sur l'histoire politique de notre région. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer tous les deux comment est né chez vous cet intérêt pour l'histoire de la Bretagne et ce qui vous anime dans le fait de faire des recherches à ce sujet ?
Alors moi, c'est venu dès ma plus tendre enfance, devrais-je dire, parce que étant né dans les années 60, j'ai vécu les événements en direct live, si je puis dire, notamment par rapport à ce qui se passait avec le FLB. Étant à Rostronin, je suis tombé sur la perception qu'avait explosé. Ça m'avait déjà posé un grand questionnement, et je sais que mes parents m'avaient dit « mais ce sont des gens qui défendent une autre manière de voir le monde ». Ça avait été texto, ce que m'avait dit ma mère à l'époque, donc c'était une personne très très éclairée. Et j'ai assisté quasiment en direct à l'arrestation des gars du FLB dans le bar qui était en face de chez mes parents. Donc ce sont des faits qui marquent, ce sont vraiment des faits marquants. Et donc vous vous posez des questions, pourquoi est-ce que ces gens-là entrent en lutte ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est leur responsabilité vis-à-vis de l'histoire et de ceux qui effectivement viennent les chercher ? Donc on cherche, donc on s'aperçoit qu'en lisant certains livres dont on n'a pas accès, qu'il y a deux histoires qui sont racontées. Il y a une histoire officielle et une histoire qui, elle, est, je dirais, empreinte de vécu, ancrée dans le réel, qui est différente, quelquefois diamétralement différente du discours officiel. Et c'est une chose qui, de plus en plus, a une résonance dans notre vie d'aujourd'hui.
Et en tant que réalisateur, justement, quand vous avez travaillé à la radio également, est-ce que c'était une façon aussi de participer à cette histoire de la Bretagne qui se fait tous les jours ?
Oui, parce que j'ai eu la chance de faire mes premières armes avec Radio Crazy Braise, tout de suite après l'explosion et l'autorisation des radios libres par François Mitterrand. Donc c'était avant que les publicités entrent dans les radios. Donc j'étais vraiment dans cette espèce d'aventure extraordinaire qu'est la radio libre, complètement débridée, sans censure, sans rien. Et je faisais du territoire, quoi. J'allais vraiment au contact des gens, des populations. C'était à l'époque des premiers quotas laitiers où il y avait des chauffeurs de camions qui se faisaient prendre en otage par les agriculteurs. On était appelés avant. Enfin, c'était une vraie aventure. On restait 3-4 jours chez les gens. Il y avait fest-noz au milieu. Enfin, voilà. Donc, je vivais ça, de cette histoire-là. Je la vivais aussi. Et j'ai rencontré des gens qui parlaient une autre langue que celle qui était enseignée à l'école, à savoir le breton, avec toute sa poésie. Et j'ai vu des gens qui avaient une autre réalité que celle qu'on raconte, quoi. Et il y a plein de mondes comme ça, différents, qui cohabitent les uns avec les autres, et dont souvent on ignore l'existence.
Quant à vous, Jean-Jacques Monnier ?
Oui, donc moi, de mon côté, j'ai fait des études d'histoire. Et dans ces études d'histoire, il manquait tout à fait l'histoire de la Bretagne. On n'avait pratiquement pas de cours sur l'histoire de la Bretagne. Donc, certains de mes collègues qui voyaient que j'étais particulièrement motivé m'avaient demandé de leur faire un cours. Donc, il y avait un petit cours comme ça entre étudiants où on s'enseignait ce que l'université n'enseignait pas. Et nettement plus tard, quand j'ai débuté ma carrière d'enseignant, j'étais au lycée Joliot-Curie à Rennes. Et donc, le proviseur m'a dit « un groupe d'élèves voudrait un cours d'histoire de la Bretagne de 6h à 7h le soir, un cours facultatif ». Et donc, j'ai été payé pour faire un cours d'histoire de la Bretagne dans un lycée public à la demande du proviseur. et j'avais 40 élèves, c'est le maximum autorisé, qui venaient en 8e heure de la journée suivre un cours de 6h à 7h le soir. Et je me suis rendu compte que pour faire ce cours, j'avais pas de manuel. Un petit livre venait de paraître jusqu'à 1341 et il n'y avait rien pour la suite, c'est-à-dire aucun ouvrage adapté à l'enseignement. Donc j'ai contacté d'autres enseignants et on a, avec les éditions Scholvrace, peu à peu lancé une collection de manuels d'histoire de la Bretagne. Et bien sûr, par la suite, donc ce cours-là a cessé, mais j'ai continué à enseigner l'histoire de la Bretagne dans mes cours parce que il y a toujours une possibilité d'intégrer l'histoire locale dans l'histoire générale, ne serait-ce qu'à titre d'exemple. Et ce qui fait que j'ai pu toute ma vie faire des livres d'une part, enseigner à des élèves d'autre part, et puis aussi faire des conférences. Et la rencontre entre nous deux, c'est quand j'ai sorti un livre sur l'histoire du Trégor, j'ai été voir la radio locale qui s'appelait Trégor FM, et puis je suis tombé sur Olivier, qui était très intéressé, et on a fait 5 petites émissions, et il a convaincu son directeur de lancer une quotidienne sur l'histoire de la Bretagne qui a duré un an. Et puis ensuite, cette quotidienne complétée a été rediffusée une autre année. Et à ce moment-là, on a décidé d'en faire un livre audio, c'est-à-dire avec plusieurs CD, puisqu'il n'y avait pas encore de podcast. Et donc, c'est comme ça qu'a débuté l'histoire, le début de l'histoire de Bretagne pour tous.
Fin avril, justement, à l'occasion du confinement, votre série de livres audio Histoire de la Bretagne pour tous, qui était réalisée en 2012, a été diffusée en libre accès sur différentes plateformes comme YouTube, Deezer, Spotify. Est-ce que vous pourriez nous raconter, donc tous les deux, les raisons qui vous ont amené à laisser de côté le format livre d'histoire pour raconter l'histoire de la Bretagne au travers de formats audio puis audiovisuels ? Qu'est-ce que ça apporte, ces formats-là, en plus ?
D'abord, il y a le langage. Je pense qu'on essaye de coller au langage de la rue, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux visions de la langue, une très didactique et très châtiée de Jean-Jacques, et puis la mienne qui vient de la rue, hein, tout simplement. Si vous découpez toutes les questions et que vous les isolez chacune de l'ensemble du contexte, il n'y en a aucune qui est dans une syntaxe, on va dire, correcte. Elles sont toutes vraiment dans le langage parlé. Et il fallait aussi, je pense, donner accès à l'histoire avec ce langage de la rue, là, qui est important, à mon avis, qui est un autre langage, qui est celui que l'on utilise couramment et qui permet de faire rentrer un peu plus en nous des notions essentielles, quoi.
Oui, d'autre part, comme enseignant, on est confronté, en lycée par exemple, à une beaucoup plus grande proximité du langage. Nos élèves avaient ce langage aussi près de celui d'Olivier que du mien. Donc un enseignant qui se respecte doit écouter les jeunes dans leur langage et se faire comprendre d'eux. Le fossé de langage entre nous deux n'était pas important, disons qu'il est assumé. C'est-à-dire que dans la réponse, il faut de la précision et aussi, pas seulement la précision, mais un certain langage scientifique. Mais on veillait, Olivier et moi, à ce qu'il n'y ait pas de fossé pour que la tension ne baisse pas lorsqu'il s'arrête de parler et moi je commence, et ou réciproquement. Donc ça a très bien fonctionné, on s'est rendu compte que beaucoup de gens dans l'Agnon et dans le Trégor nous écoutaient avec des milieux sociaux très variés, des classes d'âge très distinctes, et donc on avait atteint une sorte de point d'équilibre pour toucher le maximum de gens.
C'était l'idée aussi justement de s'ouvrir à un autre public, de toucher un autre public avec cette histoire de la Bretagne que les passionnés de livres d'histoire ?
Oui, vraiment. C'est vraiment la vulgarisation dans le bon sens du terme, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas que les passionnés d'histoire qui peuvent être intéressés par ça, puisque on a essayé, en tout cas, de la formater de façon très ludique aussi, hein, avec des comédiens, avec de la musique qui soit de notre temps. Donc, on voulait que ça s'entende comme une émission de radio. D'ailleurs, c'est beaucoup de gens qui ont acheté au départ le CD, sont des gens qui l'écoutaient dans la voiture, ou alors en bricolant, ou en faisant leur jardin, ou en faisant la cuisine, parce que justement, il y a une espèce de maïeutique qui se dégage de ça et on peut finalement s'approprier cette histoire de façon très très simple, sans beaucoup d'efforts.
C'était pour ça que vous avez voulu apporter justement cette dimension musicale, artistique au récit ?
Oui, alors ça vient d'abord de mon passé de radio et de mon passé de musicien. J'étais musicien avant et je pense qu'il fallait rythmer tout cela. On ne pouvait pas laisser les gens avec 5 heures, par exemple, de contenu sans les distraire un peu, sans faire des saisirs, sans apporter du rythme au discours. On a travaillé avec 6 studios qui avaient chacun une couleur différente, ce qui nous a permis de ratisser assez large en ce qui concerne les appétences musicales de chacun.
Oui, et la musique aussi joue un rôle important parce qu'elle elle apporte un plus historique également. Quand on parle d'Anne de Bretagne, on a retrouvé la musique du motet qui avait été créé pour ses obsèques et qui n'avait jamais été enregistré. Donc on a contacté des musiciens classiques qui ont donc enregistré cette pièce-là, musicale, et ça apporte évidemment un plus puisque personne n'avait jamais pu entendre cette œuvre musicale à la mémoire d'Anne de Bretagne.
Ouais, c'est vrai que ça a été exhumé carrément de la période du vivant d'Anne de Bretagne. Et l'anecdote forte là-dedans, c'est que la jeune fille qui interprète Anne de Bretagne, elle a le même âge qu'Anne de Bretagne au moment des faits. Et c'était une petite voisine que j'avais à côté de chez moi en centre-Bretagne, issue d'un milieu très modeste. Et elle a lu le texte en une fois, elle l'a fait en une prise. Elle s'est sentie super concernée, elle s'est vraiment approprié le texte. C'est pour ça qu'à un moment donné, on sent une espèce de pointe d'émotion quoi, dans ce qu'elle dit, parce qu'elle l'a vraiment ressenti. Et je pense qu'il y a eu un petit miracle dans cette séquence.
Aussi un brogoz, le brogoz, donc l'hymne national breton, qu'on entend souvent de façon un peu solennelle. Là, il est chanté par Nolwenn Korbel, qui a bien voulu le faire pour nous, et d'une façon aussi extrêmement humaine. Et à chaque fois, donc, c'est une touche humaine en plus qu'on arrive à apporter un récit historique pour qu'il ne soit pas froid, qu'il ne soit pas distancié par rapport à l'auditeur.
Et c'est, comme le dit Jean-Jacques, une sacrée aventure humaine, parce que quand vous voyez le nombre de participants qui ont œuvré là-dedans, dont certains n'avaient aucune idée de l'histoire de la Bretagne, et comment ils se sont investis, il y a eu des petits miracles. Il y a eu vraiment des choses en studio qui se sont faites comme ça, de façon spontanée, au ressenti. Il y a eu plusieurs méthodes de travail sur l'illustration musicale. Mais voilà, il y a eu vraiment des choses assez étonnantes qui sont sorties de cette aventure.
Duchesse, la cité est perdue. Il faut fuir.
Non, il faut se rendre.
Duchesse!
Croyez-vous que je n'ai connaissance de ce qui m'attend? Du sort réservé au duché? Qu'adviendra-t-il si nous persistons à ignorer les ravages causés par ces belligérances? Les manœuvres de la Dame de Beaujeu sont aussi redoutables que les hordes de la Trémouille. Les Bretons sont là des guerres, des sacs et des chevauchées qui piétinent le pays. Les alliances sont étiolées. D'Albret a livré Nantes aux Français. Nous sommes bien seuls.
Que nous reste-t-il ?
La Bretagne, mon ami, et les Bretons qui escomptent la paix. Il faut raison garder. Le roi Charles et son host sont les maîtres du jeu. S'ils doivent disposer de mon corps, de mon esprit, mon âme sera pour Dieu, mon cœur pour la Bretagne. Allons, mon ami, ne faisons pas attendre ces messieurs. Le sang n'a que trop coulé sur la vaillante Armorique.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans les cursus scolaires, donc les enfants français apprennent la même histoire, l'histoire de leur pays, qu'ils habitent en Bretagne ou par le Pas-de-Calais ou en Corse. Selon vous, c'est important justement de compléter cet apprentissage-là par la connaissance de l'histoire de notre région ?
Oui, parce que évidemment que personne ne vit la même chose dans un même temps, à des centaines de kilomètres d'écart. Ce qu'ont vécu les Corses au XVe siècle n'a rien à voir à ce qu'ont vécu les Bretons, par exemple. Et c'est pas faire injure à l'histoire de France que de piocher dans son passé le plus proche d'un point de vue géographique pour comprendre l'histoire globale.
Et vous souhaiteriez que cette histoire de la Bretagne puisse être enseignée à l'école ?
Oui, franchement, parce que je pense que effectivement, si on peut faire vivre et visiter un gothique flamboyant dans une église bretonne, plutôt que de voir des images d'une église à 500 km de là, je pense que c'est beaucoup plus marquant. Et je pense qu'on est de plus en plus vers l'archéologie expérimentale qui gagne de plus en plus de terrain. Regardez en Bretagne, enfin le patrimoine mégalithique qu'on a, c'est absolument fantastique. Il y a de quoi faire de l'histoire de Bretagne tous les jours sur le terrain.
On obtient aussi une adhésion beaucoup plus grande de la part des élèves, puisqu'ils peuvent aller voir les lieux dont on parle, les monuments dont on parle, voir des statues, des personnages dont on parle, et l'histoire s'incarne comme ça. Et même quand il s'agit de la Seconde Guerre mondiale, ils peuvent aller voir, pas très loin de chez eux, les événements, les traces des événements qui se sont produits et dont on parle en classe. Et c'est une façon de s'approprier l'histoire, et que ça ne soit pas seulement l'histoire d'un pouvoir lointain.
L'histoire de la Bretagne de moins 700 000 à nos jours, c'est un programme colossal. Comment est-ce que vous avez procédé pour sélectionner les périodes, les événements que vous racontez dans ces 5 heures de programme audio? Est-ce qu'il y a eu des choix difficiles à faire parfois?
Disons que c'est Olivier qui pose les questions, centaines et centaines de questions qu'il me pose, et moi j'y réponds. On n'a pas de papier, moi j'ai pas de papier, c'est le principe de l'oralité, pour avoir plus de spontanéité. Mais Olivier a sérieusement travaillé les questions avant, et sans me les dire d'ailleurs, il a lu pas mal auparavant, ce qui fait que ces questions s'enchaînent de façon très chronologique, et en même temps donnent éclaircissent la vision qu'on peut avoir de l'histoire. Il faut dire qu'on s'est aussi par la suite beaucoup entraîné, parce que le livre audio est sorti un peu en retard, après Noël. Pour le faire connaître, on a dû faire des conférences. Ces conférences reprenaient le même principe du dialogue questions-réponses, avec des pauses musicales. Et ça a eu énormément de succès, puisqu'on a fait 107 conférences comme ça, en quelques années. Et donc, on renouvelait à chaque fois l'expérience de la radio d'abord, et du livre audio ensuite, mais sous une forme également spontanée, c'est-à-dire que les thèmes pouvaient être différents et les questions et les réponses n'étaient pas les mêmes.
Ce que Jean-Jacques pourrait préciser, c'est que parmi les conférences, on a eu quand même la chance et le plaisir d'en faire une à la frontière russe, du côté de la Pologne. C'était assez extraordinaire de raconter l'histoire de la Bretagne avec une traductrice en simultané et deux musiciens bretons qu'on avait envoyés avec nous dans nos bagages, dans des vieux bâtiments encore empreintes de l'architecture stalinienne, de déclamer toute l'histoire de la Bretagne comme ça devant un public très intéressé et très enthousiaste. Ça fait partie des bonnes surprises de ce projet.
On retrouve d'ailleurs cet aspect échange culturel un petit peu dans le livre audio, puisque votre série de raconter l'histoire de la Bretagne pour tous raconte l'histoire de la région, mais en la replaçant dans l'histoire de l'Europe et du monde. Vous parlez des invasions vikings et romaines, du rattachement au Royaume de France, etc. C'était important pour vous de montrer que la Bretagne et le peuple breton, tels qu'ils apparaissent aujourd'hui, ce sont les fruits de mélanges, de métissages culturels, de rencontres avec d'autres peuples?
Exactement. Je pense que de toute façon, il y a un truc très simple, les Bretons, on est des migrants. Puisqu'on vient, nous, du sud de l'Angleterre, pour peupler une armorique qui avait besoin de sang neuf à bien des titres. La Bretagne s'est exportée très, très rapidement. Et puis, depuis très longtemps, avant la Bretagne, il y avait l'armorique. Et au néolithique, on le sait, il y avait des échanges qui étaient très nombreux avec Malte, avec Chypre, avec voilà. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de nations, donc il y avait une libre circulation incroyable. C'était peut-être plus facile de circuler à l'époque que maintenant, puisque vous n'avez pas besoin de justifier votre identité à chaque instant, vous voyez. Donc, c'est une réalité qui a fait que les hommes ont toujours circulé. Et c'est vrai qu'on a tenu avec Jean-Jacques à inscrire cette histoire de la Bretagne dans l'histoire du monde, parce que c'est factuel. Ce sont les Bretons qui ont découvert le Canada. On le sait maintenant par les derniers travaux des archéologues finlandais et américains que le phénomène mégalithique est parti de Bretagne. Donc Stonehenge est un enfant de Barnenez et non pas l'inverse. Et ça, 3000 ans avant les pyramides. Donc il y a eu un vrai phénomène très très important et une continuité, je pense, dans la Bretagne qui est toujours terre d'innovation.
Nala, nala, trémor, nala, nala, trémor. Warlen tour moal castellarvo.
À Silab, on est une radio étudiante basée sur le campus de Rennes 2. Est-ce que tous les deux, vous auriez des idées de pistes à creuser et de thèmes de recherche qui sont prometteurs concernant l'histoire de la Bretagne pour les étudiants et étudiantes en histoire qui nous écoutent?
Oui, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire sur l'histoire de la Bretagne. Il y a aussi beaucoup de faits. Je pense qu'il n'y a aucune région qui bénéficie d'autant de travaux, puisque la Bretagne a passionné beaucoup de monde. Et d'autre part, il y a quand même eu un État organisé jusqu'à 1532. Et après 1532, les institutions ont été pérennes. Il y avait une assemblée, les États de Bretagne, puis le Parlement, la Cour des comptes, etc. Ce qui fait qu'on a des archives qui vont jusqu'à la Révolution. Et ensuite, une partie ont été préservées et sont toujours donc dans les archives départementales. Il y a énormément de travaux à faire sur place, en histoire locale ou en histoire régionale. Et beaucoup ont été faits, mais il reste aussi beaucoup à faire. Et comme c'est tout près de d'où on habite, il y a une proximité qui rend le travail plus facile. Et d'autre part, il y a un public. C'est-à-dire que si le chercheur veut rencontrer des gens et expliquer ce qu'il a trouvé, il trouvera toujours un public, parce que pour l'histoire de Bretagne, il y a un public comme il n'y a pas du tout pour l'ensemble de l'histoire de France, parce qu'on peut l'incarner.
Il y a peut-être une zone d'ombre à éclaircir dans notre histoire. Je pense que ça, elle date du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire les années 476, jusqu'au Moyen-Âge central, hein, 1000-1200. Voilà, l'arrivée des rois bretons, leur rapport avec Charlemagne et les Vikings. Il faut savoir qu'à Copenhague, il y a au musée de Copenhague, au musée viking de Copenhague, beaucoup d'or breton. Et ça, c'est vraiment une zone qui n'a pas été beaucoup étudiée encore. Je pense que là, il y a du travail à faire.
Oui, c'est un peu une histoire européenne de la Bretagne, c'est-à-dire les traces qu'il y a hors de Bretagne. Quand les Vikings on fait leur destruction, les classes dirigeantes sont parties vers le nord de la Francie, de la France, vers l'Angleterre, mais aussi vers la Hollande, etc. Et les Vikings eux-mêmes ont ramené des trophées, et ce qui fait qu'une partie des manuscrits, une partie de l'orfèvrerie se trouve dans les musées des pays scandinaves.
Et well you gwen gantan digo din din don dans les gomme dans les gomme din din don dans les gomme et son.